Bienvenue. Alors merci d'être venu aussitôt donc dès l'ouverture des Imaginales et bienvenue dans cette table ronde qui sera consacrée aux voix de l'imaginaire québécois. Je crois le titre précis c'est Nord-Américain et francophone, voix de l'imaginaire québécois. Alors je suis particulièrement heureuse de recevoir nos amis québécois parce que rien que le son de leur voix, bien va nous faire voyager et ça c'est extrêmement extrêmement plaisant. Alors par rapport au programme, nous devions avoir également Jean Petitgros qui est écrivain et éditeur d'éditions à lire et qui malheureusement a été retenu donc au Québec pour des raisons de santé. Voilà, donc je vais vous présenter nos invités de suite. Simplement avant, je voulais donc vous signaler qu'il y a sur le stand donc de nos écrivains québécois plusieurs, recueils ou ouvrages qui pourraient vous intéresser. D'abord, un petit guide de la science-fiction au Québec, écrit par Jean-Louis Trudel, qui est un invité assez récurrent des Utopiales donc, et des Imaginales. Voilà, donc pour tout savoir sur la science-fiction québécoise. Jean-Louis est un excellent spécialiste. Et puis également le catalogue 2016-2017 des éditions à lire. Les éditions à lire, c'est vraiment l'éditeur, je dirais, spécifique de l'imaginaire, donc québécois francophone, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs. On vous en parlera un petit peu à la fin, justement, de notre table ronde. Voilà, donc si vous voulez les feuilleter à la bulle du livre, je pense que ça pourra tout à fait vous intéresser. Voilà, donc je présente nos auteurs. Donc nous avons d'abord Ariane Gélinas, qui est donc née à Grande-Pile en 1984, c'est-à-dire entre Québec et Montréal, c'est ça Ariane, voilà, oui. Pour que vous ayez quand même une petite idée, on aurait dû amener une carte. Elle a publié une cinquantaine de nouvelles dans plusieurs périodiques, elle est directrice littéraire de la revue Le Sabor, mais elle est aussi directrice artistique, coéditrice et co-directrice littéraire du magazine Brin d'éternité. Elle est également chargée de cours donc à l'Université du Québec, à l'ORTR, c'est...
Trois-Rivières.
Voilà,
Trois-Rivières. Entre Québec et Montréal.
Voilà, Trois-Rivières, entre Québec et Montréal. Elle termine également un doctorat sur les mémoires du diable donc de Frédéric Soulier, c'est ça ?
Oui. Hein ? Oui.
Et elle est l'auteur de 5 livres, L'enfant sans visage, la trilogie Les villages assoupis, et le recueil Le sabbat des éphémères, donc publié aux éditions Les Six Brumes. Alors ensuite, nous avons Éric Gauthier, qui est né en 1975, donc à Rouyn-Noranda, au Canada. Donc c'est, et actuellement, Éric, vous êtes à Sherbrooke, c'est ça ? Voilà. Donc après des études d'informatique, Éric Gauthier s'est établi à Montréal, avant de déménager récemment donc à Sherbrooke. Il raconte surtout des histoires. Alors ça, c'est qu'il écrit bien sûr lui-même, moderne et le plus souvent fantastique, dans lesquelles il visite plusieurs parties du monde et des cultures, se distinguant en cela de plusieurs autres conteurs québécois qui préfèrent un répertoire plutôt traditionnel. Éric Gauthier est également un auteur de nouvelles, se spécialisant en science-fiction, en fantastique et en fantasy, donc un auteur tout à fait complet donc, de l'imaginaire. Et il a remporté certains prix littéraires récompensant la science-fiction québécoise, dont le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois en 2003 pour son premier recueil contenant les versions racontées et littéraires d'histoires de son cru. Voilà, et Jonathan Reynolds, donc qui est né à Bromptonville, c'est à côté de Sherbrooke.
Oui. Hein,
voilà, c'est la bonne région. Voilà, alors l'année de la mort d'Hitchcock, je ne sais pas si ça a une importance, peut-être pour après.
Hein, voilà. Pour la couleur.
C'est ça. Jonathan Reynolds porte aujourd'hui la double casquette, nous y reviendrons, de l'éditeur et de l'auteur. Il est cofondateur de la maison d'édition québécoise Les Six Brumes, spécialisée dans les littératures du fantastique, de l'horreur, de la fantasy, de la science-fiction et du policier. Donc, très complet aussi. Ne trouvant pas d'éditeur pour publier ses récits, Jonathan Reynolds et son associé décident de créer donc leur propre maison en 2001 à Montréal. Auteur d'histoires d'horreur, ses romans, novellas et nouvelles sont publiés chez divers éditeurs depuis 2002. Et d'autre part, il écrit pour la jeunesse depuis 2009 des romans courts publiés aux éditions Zélé. Alors, dont les derniers, c'est... Kagza, c'est ça ? Et Crocoman ?
Crocoman, comme...
Crocoman,
comme
voilà.
Je ne sais pas si vous êtes Spider-Man, pour le super-héros, ou Spider-Man, ou je ne sais pas. Et quoi que ça, c'est un mot qui n'existe pas, donc ce n'est pas un terme québécois.
OK. Voilà, donc, actualité de nos auteurs. Dernier est paru, Ariane Gélinas, donc Les cendres de Sedna. Éric Gauthier, La grande mort de Mon oncle morbide. Et donc Jonathan Reynolds, La légende de McNeil, alors qu'il n'est pas de la littérature jeunesse, mais bien donc de l'horreur pour adultes.
Oui, hein, oui. C'est ça. Malgré la petite taille du livre, voilà, en fait, c'est une novella.
C'est une novella, ouais. Donc novella, évidemment. Alors novella, petit roman, hein, puisque c'est le, voilà, c'est le terme. Donc première question à nos auteurs, nous parlons aujourd'hui des voix de l'imaginaire québécois. Donc après la science-fiction d'Elisabeth von Harburg, ou plus singulière celle d'Esther Rochon, que nous connaissons un petit peu quand même, nous allons évoquer d'autres genres de l'imaginaire, le fantastique, l'horrifique, le mythologique. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les singularités québécoises de ces autres genres, à la lumière évidemment de ce que vous écrivez et de vos œuvres ? Carianne.
Alors, oui, à moi d'ouvrir le bal. Je dirais que c'est le cas aussi pour tous les pays qui sont plus nordiques, mais notre imaginaire est traversé par une nordicité qui est typique du Québec et qui va se retrouver dans nos œuvres et qui va être matinée d'une sorte aussi de ce multiculturalisme qui est typique du Québec et qui va mélanger à la fois les légendes et les mythes des Premières Nations qui vont se retrouver assez fréquemment dans nos œuvres et aussi avec, bien sûr, la contemporanéité, l'urbanisme qu'on peut avoir à Montréal. Alors, tout ça forme une sorte d'ensemble qui vient s'infiltrer dans la littérature de l'imaginaire et puis lui donner ses couleurs. Et notamment, bien sûr, puis vous êtes en train d'entendre mon accent québécois, ça se retrouve dans les dialogues aussi, bien entendu, notre fantastique, notre imaginaire en général est teinté de l'oralité du Québec et parfois ça peut-être être étonnant au premier abord de voir, de lire nos dialogues avec la couleur qu'il possède qui est très spécifique au Québec.
Oui, donc nordicité, j'aime bien ce terme, c'est vraiment très très parlant, multiculturalisme et urbanité, ce seraient les trois singularités finalement de l'imaginaire, de ce qui traverse, on va dire, l'imaginaire. Mm-hmm.
Et puis la couleur du langage.
D'accord,
également.
Et la couleur du langage, j'ai oublié le quatrième point. Éric.
Ouais, ben il y a de multiples singularités. Je reprends la nordicité parce que ça me parle particulièrement venant d'une région légèrement nordique du Québec. J'ai l'hiver dans mes os. Ça ressort dans certaines de mes histoires, surtout dans mon dernier spectacle de contes où est-ce que je me suis vraiment concentré sur l'ambiance de ma région natale, ce genre de choses-là. Maintenant, j'ai des histoires aussi. J'ai un conte au sujet du métro de Montréal, donc c'est très urbain. On a vu certains sujets apparaître. Il y a la question de le rêve de l'indépendance du Québec qui hante une portion de la population depuis un bout, et puis des fois ça peut transparaître de différentes manières dans notre fiction. Je me demande s'il n'y a pas à la fois une sorte de discrétion et puis une sorte d'originalité aussi chez certains de nos auteurs. Déjà, on est nord-américain, on a beaucoup d'auteurs qui sont inspirés des gros canons nord-américains comme Stephen King ou des gens comme ça. Mais on a quand même dans le milieu pas mal d'auteurs qui vont pratiquer des genres bien définis de fantastique, de fantasy, mais avec un angle très particulier, avec une subtilité dans leur choix, avec des fois presque un refus obstiné d'avoir recours aux clichés et puis aux archétypes habituels. On a des auteurs qui vont jouer dans des registres très 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 étroits. Ou très qui deviennent très typiques de leur œuvre et qui ressemblent à rien d'autre. Donc, ce que je trouve intéressant à constater.
Et puis, Éric, peut-être il y a aussi votre particularité à vous, c'est d'être aussi un conteur.
Oui.
Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? En fait, vous mettez en scène ce que vous écrivez, d'autres écrits. Comment ça se passe? Vous faites des spectacles?
Je donne des spectacles. J'ai commencé ça un peu pour le plaisir. C'est pas quelque chose de sérieux au début. Je suis tombé là-dedans un peu par hasard. J'écrivais déjà à ce moment-là. Et puis j'ai vu je suis arrivé juste au bon moment. Il y avait un genre de renouveau du conte au Québec, parce que une particularité au Québec, c'est qu'on a eu on a eu vraiment un mouvement de recul face à la religion et puis face à notre folklore, nos nos traditions. Il y a eu la Révolution tranquille, il y a eu un élan vers la modernité qu'on a eu, une ouverture sur le monde. Et puis, dans cet élan-là, on était tellement pressés de se ruer vers la modernité qu'on a échappé notre folklore en chemin. Et puis, on a échappé nos traditions de contes. Et puis, fin des années 90, début 2000, on a vu apparaître petit à petit des soirées de contes où est-ce que des gens reprenaient les vieux contes traditionnels et inventaient des nouveaux contes. Moi, en arrivant là-dedans, ce qui m'est venu spontanément, ça a été de présenter des nouvelles histoires, utiliser les techniques du conte et puis la convivialité du conte, disons, mais pour raconter des histoires qui sont très ancrées dans le contemporain.
Un mélange, une hybridité entre finalement folklore et contemporain, ça c'est peut-être une autre spécialité finalement de l'imaginaire donc québécois. Et Jonathan, alors quel est comment vous définiriez-vous la singularité, comme vous êtes aussi éditeur, donc vous voyez passer beaucoup d'auteurs. Comment est-ce que vous définiriez cette singularité québécoise?
Ouf, je pense que mes collègues, mes amis ici ont bien décrit, parce que j'étais pour parler des dialogues, justement. J'étais pour parler de la... j'utilisais pas le terme nordicité, mais j'étais pour dire comme région très froide, au moins 6 à 7 mois par année. Éric a mentionné justement certains contrastes et tout entre folklore oublié, folklore qui revient, le recul de la religion, mais en même temps, les gens reviennent vers d'autres valeurs et tout. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? Je pourrais dire que l'idée, je me souviens plus si c'est Ariane ou Éric qui a mentionné ça tout à l'heure, mais oui, il y en a qui vont, disons, y aller dans du plus classique, disons, si on prend la fantasy et tout, un héros qui doit sauver. Mais je dirais que la plupart des auteurs, qui m'intéressent au Québec, je vais mentionner ça comme ça, vont utiliser une originalité. Regardez bien ce que je veux dire. Par exemple, je pense à Sébastien Chartrand, qui a fait de la fantasy une trilogie, mais vraiment à saveur québécoise. C'est-à-dire, ce ne sont pas des elfes, des nains, des gobelins. Tolkien a déjà fait ça il y a pas un million d'années, mais bon. Et je n'ai rien contre ceux qui font toujours ça avec des elfes, c'est correct. Mais tant qu'à être Québécois, pourquoi ne pas le faire avec les Amérindiens, les Feux Follets, et j'en passe. Donc, cette saveur-là, c'est ce qui m'est venu en tête lorsque, je crois que c'est toi, Éric, qui avait mentionné ça, que certains auteurs utilisent une originalité, une couleur locale. Tant qu'à être Québécois, autant entouré comme ça d'anglophones et de... tout près des lignes américaines, comme on dit, des lignes des États-Unis, des frontières, autant utiliser, faire ressortir qui on est au travers des écrits. Et c'est à peu près mon petit grain de sel que j'ajouterais, là. Parce que le reste a pas mal été dit, je crois. Je pensais surtout au niveau des dialogues, justement.
Ça, c'est une particularité, l'oralité, parce que, vous voyez, même dans les travaux universitaires, quand on publie donc des collègues québécois, il y a cette oralité qui parfois est présente. Vous voyez, donc c'est un marqueur très, très fort, hein, l'expression québécoise. Voilà, alors Jonathan, on va quand même continuer un petit peu avec vous. Justement, vous écrivez donc des récits, de la littérature de terreur horrifique. Alors moi, j'avais envie de vous demander quelles sont justement vos influences. Est-ce que ce sont des auteurs américains? On a cité évidemment Stephen King, mais il y en a sans doute d'autres. Et puis, pourquoi écrire de l'horreur finalement pour les jeunes?
Oui,
okay. Il y a pour les adultes, hein, mais bon, essentiellement
oui, mais,
pour les jeunes.
Ok, on va y aller. Mais d'ailleurs, lorsque j'étais adolescent, mes principales influences étaient effectivement Stephen King, mais également Howard Philip Lovecraft. Mais vers 17-18 ans, j'ai découvert que des Québécois en faisaient, dont Patrick Sénécal, Joël Champetier, et j'en passe, là. Donc, mes influences se sont rapprochées de quelque chose qui me ressemblait plus. Oui, Stephen King m'arrive d'en lire encore à l'occasion, et oui, je trouve ça bien et tout, mais si je prends, par exemple, Joël Champetier, avec son roman La mémoire du lac, c'est un lieu que j'ai déjà visité. Ça se déroule à Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue, là, d'où vient Éric à la base. Et oui, je suis allé à quelques occasions et en lisant le livre, tu te dis « Wow, ok, je comprends, je peux voir les choses, le parler de la place, etc. » Donc, influences qui sont importantes parce que on s'y retrouve. En tant que Québécois, on dit oui, on écrit aussi sur nous et pour nous. Et pour les autres aussi, mais Ne pas avoir honte et s'assumer en tant que peuple dans notre littérature, c'est super important, je trouve. Et bon, pourquoi écrire pour la jeunesse? C'est un pur hasard. J'écrivais, bon, depuis 2002, j'écris pour adultes. Bon, je comprends les adolescents là-dedans. Bon, ça contient aussi les adolescents, disons à partir de 13 ans. Mais pour, disons, de 8 à 12 ans, c'est une petite maison d'édition, justement, de Abitibi-Témiscamingue, les éditions Zélé, qui me voyait aller en salon et tout ça, et qui se disait, ah, tiens, l'horreur pour jeunes, ça se fait pas beaucoup au Québec. En fait, c'était presque pas nul dans le sens pas bon, mais inexistant, à l'exception des traductions qui venaient justement des États-Unis. Ils se sont dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on réunirait pas quelques auteurs qui en font pour adultes et leur demander d'en faire pour la jeunesse? Et c'est tout simplement pour ça. J'ai accepté comme un défi. Et c'est ça. À raison d'un livre par année, je m'amuse. Et c'est un public qui est vraiment intéressant parce qu'ils te disent exactement. J'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est ça. Ça sera pas ah, tu sais, blabla. Non, c'est très direct.
Quel type d'histoire, en fait, cette terreur? Vous utilisez un peu le folklore, justement, lié au lieu, peut-être, du Québec? Des histoires de fantômes, de démons, de psychopathes.
Un peu de tout, toutes ces réponses. Ça dépend où m'amène l'histoire. Mais oui, au niveau des lieux, j'écris souvent. Si je prends par exemple pour les livres pour la jeunesse, il y en a un, entre autres, qui se déroule à Montréal, il y en a qui se déroule à Sherbrooke. D'où je viens, où Eric habite maintenant, c'est très varié, c'est selon ce que je veux raconter, et selon souvent là où les personnages aussi veulent m'amener, parce que je commence beaucoup avec les personnages. J'ai jamais un flash, une idée d'histoire, c'est tout le temps, j'ai envie de voir ces personnages-là vivre tel truc, puis c'est eux qui m'amènent. Donc si c'est fantôme, ça sera fantôme, si c'est loup-garou, si c'est... Donc, un peu toutes ces réponses, je dirais, ouais.
Alors, Ariane, justement, une question pour vous. Comment vous utilisez, parce que ça, c'est un peu la spécificité, justement, de vos récits, comment vous utilisez les contes, la mythologie, alors, évidemment, la mythologie, on va dire, non pas nordique, enfin, du Canada, hein, donc des Premières Nations, peut-être, justement, dans vos récits, et finalement, on aboutit à quel type de fantastique?
Mm-hmm. Oui, mais Jonathan vient de parler de l'importance des personnages pour lui. Je travaille beaucoup avec les lieux, quoique Jonathan, c'est un écrivain dont l'idée de la frontière est récurrent dans son œuvre aussi. Fait que j'ajouterais un petit peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, notre américanité aussi qui va se retrouver dans nos écrits, là, pour revenir un peu là-dessus, parce que étant entouré aussi d'anglophones, forcément, ça teinte nos influences et tu es plus influencé par les lieux que tu peux le penser, notamment par cette frontière-là. Personnellement, je le suis beaucoup et j'aime visiter des lieux. À chaque fois que j'écris sur un lieu, j'y vais et j'aime qu'il soit très isolé. Puis ça, c'est une autre des caractéristiques aussi, je dirais, de notre imaginaire, c'est qu'on peut, à 100 km au nord de chez moi, on n'a pas Internet. On est en pleine forêt, dans des pourvoiries, on peut rencontrer des ours et on peut se sentir complètement seul au monde, avoir son lac n'a pas de nom. Il y a des lacs qui n'ont pas de nom dans ce coin-là. Effectivement. Et ça me fascine, cette espèce de d'isolement qu'on peut avoir dans la distance, dans les lieux, et qui dit des lieux isolés va dire propice aux légendes fantastiques diverses, et les Premières Nations ont plein de mythes qui sont fabuleux. Alors, généralement, je fonctionne un peu dans un double mouvement. Je m'intéresse à un lieu, je vois comment je pourrais y aller, et des fois, c'est très, très compliqué. Parfois, il faut y aller sur un cargo de marchandises, descendre au milieu de la nuit, sur un quai au milieu de nulle part avec une lampe de poche, et je suis seule la moitié du temps, parce que j'ai tellement cette envie-là fréquente que 50% des cas, mon amoureux dit « OK, je vais y aller », et puis les autres fois, eh bien là, je pars avec le sac au dos. Alors, il y a de visiter ces lieux-là et de beaucoup de lire. Le double mouvement et les documentaires également, ça va être de lire sur ces légendes-là et de voir comment ensuite je peux les reprendre. De façon plus concrète, dans les centres de Sedna, je me suis intéressée d'abord au petit village de Tête-à-la-Baleine, qui est Tête-à-la-Baleine.
Tête-à-la-Baleine,
oui.
D'accord.
Il s'appelle comme ça parce qu'il y a un rocher qui ressemble à une tête de baleine dans l'archipel de la Basse-Côte-Nord. Et d'ailleurs, j'ai tenu à aller mettre un pied, j'insiste, sur le rocher en question parce qu'on était en bateau à ce moment-là avec une mini compagnie qui nous avait emmenés dans l'archipel. Et je tenais à avoir ce lieu-là parce qu'entre autres, ils font de la transhumance. Ça veut dire que l'été, ils vivent dans les îles et puis ils reviennent le reste de l'année sur le continent. Et la plupart des familles le font encore. Et ça, c'est une tradition aussi qui s'inspirait à la fois des Québécois sur la base côte nord. Pour vous situer, c'est vraiment loin par-delà cette île. Le Québec est extrêmement vaste, vous le savez. On parle de quelque chose comme, c'est plus de 1400 kilomètres de Montréal vers l'est. C'est très, très loin. Alors, je voulais aller voir avec les traditions qui étaient liées à Tête à la baleine et aussi avec la légende de Senna, qui est la déesse Inuit, qui a donné naissance aux animaux marins, dont les baleines. Alors, vous voyez un peu le rapprochement que j'ai fait, village de Tête à la baleine, déesse des animaux marins, Senna, qui, comme vous savez peut-être dans le mythe, ce serait suite à une mutilation, ses bras tombant dans l'eau selon les Inuits, que les animaux marins seraient nés. Alors, je trouvais ça fascinant. En plus, on sait que le Saint-Laurent est un des cours d'eau les plus difficiles à naviguer qui soit. Alors, je me suis dit, peut-être que c'est Senna, hein, qui est là-dessous, dans les deux sens du terme.
Oui, donc oui. Là, on est vraiment dans le Nord, c'est-à-dire que, oui. Voilà, vous avez parlé des Premières Nations, donc des Indiens, les premiers habitants, oui. Donc évidemment, du Canada, du Québec. Mais là, on est vraiment tout au Nord, en fait, là, oui. Avec les Inuits. On va beaucoup plus loin, là. On est sur des terres de glace, en fait, des terres glacées.
Oui, entre autres, on se promène. On est sur des terres que je qualifierais de lunaires sur la basse côte nord. Il n'y a pas beaucoup d'animaux. Il y a un silence qui est très difficile à décrire. J'ai essayé de le faire dans les centres de Sedna parce qu'il y a des vagues pour la présence des animaux réellement. Alors, ils sont plus présents aux 4 ou aux 5 ans. Et l'année où je suis allée, c'était pas une année, on va dire, de vagues. Et cette espèce de silence lunaire, parce que forcément, ils vendent beaucoup. Alors, Il y a des paysages avec juste du lichen qui est d'une couleur nordique. Ce silence-là, 300 personnes dont les maisons s'agrippent à la falaise et qui se sont installées là, puis avec toutes sortes d'histoires, toutes sortes de raisons très atypiques, parce que la plupart qui ont voulu s'installer au Québec ont continué beaucoup plus loin, plus au sud, finalement.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment des particularités, oui. Des spécificités, oui. Que vous nous décrivez. Et Eric, alors, Eric, j'ai repris un terme de la journaliste, donc Christine Brouillet, qui a qualifié donc votre roman, pardon, je l'ai dessous, voilà, La grande mort de mon oncle morbide, qui a donc qualifié ce roman de roman grand guignolesque, étrange, fantaisiste. Est-ce que ce serait la marque de fabrique de votre fantastique? Et comment, finalement, définiriez-vous ce fantastique? Est-ce que c'est de l'insolite? Voilà, donc là, on touche à d'autres, finalement, catégories du fantastique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela?
Mon fantastique est plutôt varié. J'ai un peu tendance à partir dans des directions différentes avec chaque œuvre, par goût d'exploration, je dirais. Je m'intéresse à l'insolite depuis longtemps. J'étais un pur rat de bibliothèque dans ma jeunesse et puis j'étais fasciné par le j'oublie la cote décimale, mais j'étais fasciné par la section où est-ce qu'il y avait les encyclopédies de l'insolite, où est-ce qu'on nous parlait des crânes de cristal de l'Amérique du Sud, on nous parlait des cas de combustion spontanée qui avaient été enregistrés, où est-ce que quelqu'un s'endormait dans son fauteuil et puis on retrouvait juste un pied et puis un fauteuil calciné le lendemain, ou toutes sortes d'horreurs inexplicables comme ça, ou des pièces, une pièce de monnaie récente retrouvée prise dans un rocher vieux de 3000 ans. Donc tout ça me fascinait. Puis une chose que j'ai tendance à faire beaucoup avec mon fantastique, peut-être de plus en plus, c'est un genre de célébration de l'étrangeté du monde dans lequel on vit. Cette étrangeté-là, ça provient à la fois de choses réelles. Je m'intéressais beaucoup à la nature aussi, enfin, et puis on a l'ornithorynque qui a l'air d'être une espèce de castor avec un bec de canard et puis des éperons venimeux et puis qui pond des œufs. C'est une vraie créature, tout aussi invraisemblable qu'elle puisse paraître. Donc l'étrangeté de notre monde, c'est des choses comme ça, c'est toutes les histoires, toutes les rumeurs qui courent aussi, qui sont peut-être vraies, peut-être pas vraies. C'est un foisonnement.
Les légendes urbaines, un petit peu, vous faites référence à cela, puisque vos œuvres se passent aussi dans les villes, en fait.
Légendes urbaines aussi, j'ai essayé d'en créer une, plus ou moins. Je parlais de mon conte de métro, plutôt, qui commence par « Quand vous vous trouvez sous terre et que votre train arrive, surtout ne regardez pas votre reflet dans le flanc des wagons. » Et puis là, ben là, cette histoire-là nous raconte ce qui arrive au pauvre gars, quelqu'un qui s'est trop intéressé à son reflet dans le métro. Ouais, les légendes urbaines, ça fait partie de ça. Je suis beaucoup dans l'urbanité dans mes histoires. Avec mon deuxième roman, c'est particulièrement prononcé parce que c'est une fantasy uchronique où j'ai réinventé les 500 dernières années du monde environ. Et puis ça se passe surtout dans la ville de Montréal, qui est la version de Montréal dans ce monde-là. Donc on est beaucoup dans l'architecture, l'urbanisme joue un rôle dans l'intrigue, dans les conceptions de la magie dans ce monde-là.
D'accord. Et alors, je signale quand même pour ceux qui nous écoutent, qu'il y a sur votre site, hein, donc vous allez sur Google, vous tapez donc Éric Gauthier, attention à ne pas confondre avec le journaliste, hein, c'est ça, il y a un journaliste.
Oui, il y a un animateur de radio, il y a un danseur de ballet, moi je suis Éric, moi je suis éricgauthier.net.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que d'abord vous avez toutes les activités donc d'Éric, on va y revenir de toute façon très très vite, mais vous avez aussi des extraits de ce qu'il écrit, donc par exemple quelques pages donc, de La grande mort de mon oncle Morbide, donc c'est intéressant aussi de découvrir cette écriture qui est très spécifique, très, je dirais, très, très efficace. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des... Quelque part, alors d'abord, mon oncle Morbide, donc c'est mon oncle, en fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu des accents de la famille Adams dans cette... dans ces personnages. Donc, est-ce que ça peut être une référence, ça, ou une influence?
C'est tout à fait une référence. Dans il y a trois personnages principaux dans le roman. Il y en a un qui est un comédien, un vieux comédien à la retraite, un vieux grincheux incroyable. Et puis cet homme-là a joué v'là longtemps le personnage de mon oncle Morbide dans une émission pour enfants. Et puis mon oncle Morbide est inspiré de la famille Adams. Il ressemble particulièrement à Grandpa Monster dans l'émission de Monsters.
C'est Fétide. Donc l'oncle Fétide, c'est ça? Non,
non c'est un autre encore. Ben, il y a un peu du Fétide aussi dedans. Voilà. C'est un amalgame, disons. Et puis il y avait quelque chose que... Il y a quelque chose que j'aime dans ce genre de personnage. Encore là, c'est un peu la célébration de l'étrange. C'est des personnages qui célèbrent ce qui est macabre, ce qui est morbide. C'est un petit peu un signe c'est un petit peu un symbole de courage presque pour un autre des personnages qui regardait l'émission, lui, quand il était enfant. Mon oncle Morbide, c'est un personnage qui se complaisait dans tout ce qui lui le terrifiait enfant. Ouais, c'est ça, un genre de courage devant l'insolite.
Voilà. Je vous demanderai peut-être à la fin de la table ronde de raconter brièvement, évidemment, aux spectateurs une petite histoire, enfin, dans vos genres respectifs ou vos sous-genres respectifs. Voilà une histoire qui vous a vraiment plu, quelque chose que vous avez eu envie de créer, que vous avez eu plaisir, justement, à créer après, hein, pour avoir justement une représentation de tous ces types de fantastiques, d'insolites, etc. Voilà. Alors, je voulais revenir sur une chose qui m'a semblé aussi être caractéristique de ces vies de l'imaginaire québécois. Le point commun donc de ces carrières respectives, c'est la multiplicité des casquettes professionnelles que vous avez pu percevoir justement à travers les biographies. Donc, directrice de revue pour Ariane, par exemple, éditeur pour Jonathan, qui a créé une maison d'édition, animateur d'ateliers de spectacles, entre autres, hein, pour Éric. Alors, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que c'est une nécessité au Québec, peut-être pour les écrivains de l'imaginaire, finalement, d'investir comme ça tous les champs professionnels de la littérature, Jonathan?
Avant de répondre, je vais aussi me rajouter un chapeau qui n'est pas sur mon Wikipédia encore. Je suis également coordonnateur pour la revue Solaris, qui est la plus ancienne revue franco... Ah oui, mais oui, je vais la montrer tant qu'une image vaut mille mots. La plus ancienne revue francophone de science-fiction fantastique au monde. Un chapeau de plus, mais pour répondre à la question.
Excellente revue au passage, hein, vraiment. Oui, vous avez l'essentiel de beaucoup de nouvelles et un panel vraiment très représentatif.
Avec beaucoup de un panorama de ce qui se fait aussi au Québec, mais également à l'international au niveau d'un volet critique, inclus dans chaque numéro, là. Pour répondre à la question, ben, nécessaire. Je dirais que ça va selon les intérêts aussi de chacun. Parce que là, ça tombe que, oui, à la table ronde, on est trois qui s'impliquent beaucoup dans notre milieu, mais vous auriez pu tomber sur trois autres auteurs qui, et c'est correct, là, mais qui ne font qu'écrire. Mais dans mon cas, à moi, plus spécifiquement, je dirais que c'est allé un petit peu, encore une fois, par hasard, de fil en aiguille. Je me suis pas dit consciemment, lorsque j'avais, disons, 20 ans, tiens, je vais partir une maison d'édition. C'est un collègue étudiant à l'UQAM à Montréal, donc l'Université du Québec à Montréal, qui est encore ingénieur civil et qui prenait ce cours-là pour le plaisir, comme ça. Et il était assis juste à côté de moi à une table. Et à la fin de quelques cours, parce qu'on se rendait compte qu'on aimait tous les deux Elisabeth Von Arbour, Patrick Sénécal, et il m'a demandé, comme ça, à brûle pour point, est-ce que ça te tenterait qu'on se parte une maison d'édition ensemble? Bon, OK, pourquoi pas? Tu sais, j'étais comme, bon, OK, un défi comme un autre. Et c'est sur un coup de tête comme ça. Donc, ce chapeau-là, c'est une passion, ce n'est pas un métier dans mon cas. On prend pas de salaire, on réinvestit dans les livres. Bon. Sinon, au niveau de coordonnateur, oui, ça, c'est mon métier. C'est une passion également, mais je veux dire, c'est vraiment ce qui m'anime le plus présentement et tout. Donc, je dirais que ce que j'aime, et j'en parlais ce matin, je pensais à toi, Eric, au petit déjeuner, c'est que d'avoir plusieurs chapeaux permet d'avoir une vue d'ensemble aussi d'un milieu, ce que je trouve très intéressant. Ça me permet de voir justement, bon, disons à Solaris, je suis le premier filtre, je ne fais pas partie du comité de lecture, mais c'est moi qui reçois les textes tout de même, les soumissions des gens, que ce soit européens, québécois, peu importe, et je vois un peu, OK, c'est dans telle thématique, c'est les préoccupations de ces auteurs-là, et je vois des grandes... Tendance, ligne directrice et tout qui reviennent malgré que les gens ne se connaissent pas entre eux nécessairement. Donc, c'est ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la vue d'ensemble. Je vais laisser les autres répondre aussi.
Oui, Ariane.
Oui, j'aime beaucoup contribuer à cette effervescence-là. Je me vois pas être en dehors du milieu de l'édition au sens large, mais comme Jonathan le mentionnait, c'est pas tout le monde, mais il y a peut-être quand même beaucoup de monde qui ont plusieurs chapeaux au Québec. Et d'ailleurs, Claude Janel, qui est un spécialiste de l'imaginaire au Québec, lorsqu'il a écrit la postface de l'anthologie qui célébrait les 10 ans de Brin l'éternité, je vous situe un peu. Brin l'éternité, on n'a pas d'exemplaire ici. C'est, autrement dit, Solaris, c'est la revue professionnelle que nous avons au Québec pour l'imaginaire. Nous avons également une revue qui est un prosine, comme on dit, pour les auteurs un peu plus de la relève, qui s'appelle Brin l'éternité et qui en est à ses 13 ans environ. Alors je suis une des contributrices pour Brin l'éternité. Lorsqu'on a célébré nos 10 ans, on a fait une anthologie et avec 20 des meilleurs textes qu'on a publiés et on a invité Claude Janel à se prononcer un peu sur les spécificités de Brin l'éternité, certes, mais aussi sur celles du milieu. Et il remarquait à quel point on a tendance à être à la fois critique, chroniqueur, auteur, éditeur, alors à multiplier les chapeaux. Et c'est devenu une sorte de dynamique à l'intérieur du milieu, pas chez tout le monde, c'est sûr, mais quand même assez répandu. Puis ça vient peut-être aussi de la promiscuité. Nous, on a un événement au Québec pour l'imaginaire qui est le Congrès Boréal, qui se déroule en mai. Et s'il y a 200 personnes sur place, là, on se peut plus, là, comme on dit au Québec, là. Alors, ça donne quand même un peu la mesure de comment on se connaît tous. Et personnellement, je vais au Congrès Boréal depuis peut-être 10 ou 12 ans. Alors, à chaque fois qu'il y a des nouveaux, eh bien, c'est pas long. Alors, il y a trois nouveaux cette année. Alors, bonjour, on se présente. Alors qu'ici, c'est complètement différent. On peut pas faire la tournée des nouveaux à chaque année. Ça serait impossible. Oui, alors c'est vrai, on se retrouve dans certains cas, lorsqu'on est passionné du moins par l'imaginaire, on peut se retrouver avec le chapeau de coordonnateur de Congrès Boréal, chapeau que j'ai porté trois fois également. J'ai même deux chroniques de l'imaginaire, mais ça vient du fait que je suis au Québec également. Ça, j'en suis consciente, parce que sinon j'aurais peut-être une chronique de l'imaginaire, mais avec la plus petitesse du milieu, ça a aussi des forces, bien sûr, là.
Et puis aussi peut-être un lien fort avec les universités du Québec, parce parce que souvent vous allez donner des cours, vous animez des ateliers d'écriture, alors ce qui malheureusement commence à émerger en France mais n'existe pas vraiment, alors que au Québec, un petit peu justement à la manière des universités américaines, il y a effectivement des ateliers d'écriture qui sont animés. Elisabeth von Harburg nous avait parlé justement de ces ateliers, de ces cours qu'elle donnait. Donc il y a aussi des liens, c'est pour ça que vraiment c'est un milieu je dirais très très dynamique, et où il y a des ponts très forts entre les différents mondes, entre les différentes activités. Et Boréal, c'est vraiment le point d'orgue, finalement, le congrès Boréal de cette activité là. Donc
tout ça est un très soudé. J'ai même oublié un autre chapeau que je me rappelle, c'est d'être justement professeur en littérature de l'imaginaire, chargé de cours pour être exact. Alors
voilà, vous voyez, donc on a, oui, il y a vraiment une cohérence quand même dans tout cela. Alors je cite simplement parce que Ariane a cité Claude Janel. Donc Claude Janel, c'est un grand spécialiste justement des littératures de l'imaginaire. Et alors un notamment que je vous recommande, qui s'appelle le DALIAF, c'est le dictionnaire des auteurs des littératures de l'imaginaire en Amérique française. Alors ça, j'adore ce terme, en Amérique française. Et ça a été publié chez À Lire en 2011. Voilà, Claude Janel, le DALIAF, si vous vous y intéressez, parce que vraiment, c'est une excellente somme sur la littérature contemporaine, mais également sur l'historique finalement de l'imaginaire québécois, par rapport au 19e siècle. Alors, Éric, justement, vous faites beaucoup de choses, là aussi. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de toutes les activités que vous pratiquez, parce que ça, je trouve ça intéressant aussi. Vous avez un petit peu parlé tout à l'heure des spectacles, du fait d'être conteur, etc. Donc, comment vous avez été amené finalement à pratiquer toutes ces activités, à développer tout cela?
Une chose déjà avec la multiplicité des chapeaux, disons, c'est pas, je crois que c'est pas spécifique aux littératures de l'imaginaire au Québec, c'est l'état de l'écrivain québécois généralement. Peu importe le genre, on a au Québec un plus petit bassin de lecteurs parce qu'on a moins de population qu'ici, simplement. Sur la population qu'on a, il y a malheureusement une proportion pas si élevée de gens qui vont lire des romans de façon régulière. Et ça pour une variété de raisons, et puis ça va pas nécessairement s'améliorer. Ça, c'est quelque chose de navrant en Amérique du Nord depuis, peut-être particulièrement dans les dernières années, et puis je serais pas surpris que ça soit présent ici aussi. L'espèce de tendance qui semble y avoir à rendre la population le plus, à abrutir la population autant que possible. On démantèle l'éducation. Il y a pas suffisamment de force qui pousse les gens à réfléchir par eux-mêmes, à s'instruire, à être curieux. Et puis ça, ça se traduit par de moins en moins de lecteurs à chaque année, si on fait pas attention. Et puis donc, dans un environnement avec un petit bassin de lecteurs, on peut difficilement espérer vivre de ses droits d'auteur, à moins d'être un des cinq auteurs québécois qui sont immensément populaires. On devient entrepreneur, on varie son offre de services.
C'est très précisément ce qu'il y a sur votre site d'ailleurs qui m'a ça m'a frappé, c'est-à-dire on voit un onglet services où vous proposez une multiplicité d'activités en fait liées à la littérature, à l'écriture, aux autres.
C'est ça, il y a eu de la stratégie là-dedans dans mon cas. J'ai commencé, au départ j'ai toujours aimé les histoires, j'ai commencé à vouloir en écrire, publier dans Solaris, tout ça. J'étais informaticien dans une autre vie. Quand j'ai défroqué, je me suis rendu, c'est dans la période où est-ce que j'ai commencé à compter aussi. Et puis quand j'ai pris la décision de me lancer comme travailleur autonome, et puis là, justement, la liste de services, écriture sur commande, j'ai écrit des histoires pour des projets très précis sur commande. Formation, je donne des consultations individuelles, de l'accompagnement en écriture, donc les gens m'envoient un texte et puis on discute pendant une heure, je leur pointe ce que j'ai remarqué, comment ils peuvent l'améliorer. Je donne des ateliers, puis les spectacles de contes à gauche et à droite, parfois en milieu scolaire, surtout adolescent. Et puis souvent dans le circuit des festivals de contes au Québec, en entreprise une fois de temps en temps, on varie autant que possible. Et puis comme ça, si dans un domaine on a moins de succès ou s'il y a moins de demandes dans un domaine, ben on compense d'un autre côté. Après ça, il s'agit de maintenir la santé mentale à travers ça, de pas trop se fracturer et puis de pas tout faire au dépens de tout. Mais on ajuste la mesure.
Je crois qu'on est dans une société qui va un petit peu vers ça, et c'est vrai que parfois on peut se perdre justement dans cette multiplicité d'activités. Alors moi, ce qui ressort, mais ça c'est quelque chose qui m'avait frappé aussi au Canada, enfin au Québec en particulier évidemment, c'est l'engagement qu'ont les écrivains envers la culture d'abord, c'est-à-dire défendre une culture, défendre une sphère intellectuelle élevée par rapport peut-être à, je dirais, une absence finalement de culture, hein, il faut dire les choses comme elles sont, qui baignerait peut-être l'Amérique dans son ensemble, enfin au moins l'Amérique du Nord, et puis aussi la défense du français. Parce que ça, c'est quelque chose... En France, c'est vrai qu'on ne le perçoit pas forcément, mais au Québec, on le perçoit tout à fait, c'est-à-dire cette espèce de résistance acharnée, peut-être qui est liée justement au rêve de l'indépendance du Québec, hein, qui est toujours extrêmement présente et prégnante donc, dans la belle province, comme on dit. Mais vraiment, cet engagement, est-ce que vous le vivez à travers vos activités professionnelles, à travers votre écriture, cette défense de la langue française, qui est différente justement du français de France, bien évidemment, qui a ses particularités aussi.
On a été la plupart, en tout cas, je crois, nous trois, à tout le moins, on a été bercés dans notre jeunesse par les bandes dessinées d'Astérix qui résistent encore et toujours, le petit village qui résiste encore et toujours. Donc, je crois que c'est quelque part, c'est ancré dans notre culture. Et puis, en Amérique du Nord, on est cet îlot-là francophone dans une mer d'anglophones. Évidemment, c'est une simplification parce qu'il y a on trouve des francophones un peu partout au Canada. C'est juste qu'on a la plus grosse concentration. À divers égards, ça varie beaucoup d'un auteur à l'autre. Moi, je me suis plus ça va, plus je me suis trouvé à affirmer mon français, affirmer ma culture. J'ai pris une décision très consciente parce que j'ai vécu à Ottawa pendant quelques temps. Je parle suffisamment bien anglais que j'aurais pu me mettre à écrire directement en anglais. Avec un peu de pratique, j'aurais pu écrire professionnellement en anglais. Mais j'ai fait le choix très conscient de m'adresser d'abord à un auditoire québécois en français et puis idéalement par la bande à un auditoire français si possible. Mais donc c'est un choix très conscient de pratiquer la langue française.
Moi aussi, dans mon cas, je vais pratiquement copier ce qu'Éric a dit, mais c'est venu d'un choix conscient. Dans mon cas, c'était surtout, je vais répéter quelque chose que j'ai dit il y a peut-être 10 ou 15 minutes, mais lorsque je me suis rendu compte avec, je disais Patrick Sénécal, Joël Champetit, que waouh, on pouvait faire des romans de terreur, tu sais, du fantastique horrifique québécois, avec des dialogues qui vont avoir des tabarnaques, qu'est-ce que tu fais là, des expressions typiquement québécoises. Je me suis dit, moi aussi, c'est ce que je veux faire, parce que sinon, ça va juste être... j'aurais pu, en pratiquant, je suis pas parfait bilingue, mais à l'écrit, disons, je suis meilleur, en anglais, je veux dire, à l'écrit, je suis un peu meilleur que mon parler anglais, là, tu sais, c'est « where is the toilet? » Mais j'aurais pu, avec un peu de pratique, peut-être, puis il y a eu un bon bassin de lecteurs, les États-Unis sont juste à côté, puis les romans d'horreur, là-bas, c'est hyper populaire, mais je me suis dit, non, moi, le grain de sel que je vais apporter, c'est au Québec. Tu sais, essayer d'être l'autre génération après un Patrick Sénécal ou un
Et puis je soulignerais juste au passage que les éditions à lire ont joué un rôle marquant là-dedans, je crois, parce que il y a une tendance chez les nouveaux auteurs au Québec, il pouvait y avoir une tendance naturelle à s'inspirer des gros auteurs américains et puis à écrire des histoires où est-ce que le héros s'appelle John. Mais c'est ça, les éditions à lire, ça fait partie de leur mandat, je crois, depuis le début, de publier vraiment des auteurs de chez nous avec des histoires qui se passent chez nous souvent.
et qui vont se passer en région. C'est en ce sens-là aussi que je veux œuvrer, c'est de mettre de l'avant, oui, le Québécois, mais en faisant attention, et puis, bien entendu, il y a beaucoup d'auteurs à Montréal, et certains sont des purs Montréalais, et qui sont peut-être plus ou moins conscients de, ils vont écrire dans leur roman des choses comme « wow, c'est awkward », et puis, alors ça, c'était d'avoir conscience de ne pas faire ça, de vouloir, oui, travailler du côté québécois, d'y aller avec un français qui va être également un peu international, mais de pas se laisser tenter par la facilité d'insérer des mots anglophones, et surtout s'ils viennent pas ajouter quelque chose dans les dialogues, dans la compréhension. Puis même, il y a bon nombre, on dit des fois, c'est pratique l'anglais, mais il y a bon nombre de mots anglais qui sont plus longs à prononcer que ceux en français. Alors, c'est pas une raison, mais lorsque tu vis à Montréal, et c'était ton cas pendant un bon bout de temps, ça peut être très, très tentant parce qu'on entend parler, et c'est croissant, là. Montréal est en train de devenir une ville assez anglophone et ça peut, par promiscuité, ça peut un petit peu nous contaminer. Le mot est probablement un peu trop négatif, là, mais comme auteur...
Ça peut être, à vivre à Montréal, ça peut être un peu facile d'oublier que le reste de la province existe aussi. C'est le centre versus la périphérie, on voit ça ailleurs.
Oui, il y en a qui disent en dehors du 514, 514 c'est l'indicatif téléphonique, je ne vais pas là, c'est la brousse.
OK. Dans le,
la brousse.
Le, dans le film La peau blanche, basé sur le roman de Joël Champetier, les personnages s'en vont, sont en train d'enquêter plus ou moins, et puis s'en vont sur la rive sud pour découvrir la source d'un mystère. Et puis je regardais le film avec des amis, puis quand on voit les personnages qui partent de Montréal puis qui traversent le pont vers la rive sud, mes amis étaient là qui disaient aux personnages: non, on ne va pas là, c'est la rive sud.
Qui est aussi nommé, alors on disait le 514, alors ça c'est Montréal avec l'indicatif régional, la rive sud c'est le 450, et parfois t'as des Montréalais qui disent: ah, 450, ok. Mais au-delà de ça, elle a, c'est une espèce de territoire avec rien.
Alors, pour terminer, j'ai envie de vous demander donc deux choses. D'abord, de nous dire peut-être, de nous raconter très brièvement, parce qu'il nous reste finalement assez peu de temps, nous raconter une histoire que vous avez écrite, qui vraiment, que vous placez au-dessus des autres, pour justement faire percevoir l'originalité de vos œuvres. Et puis, peut-être de citer un autre auteur québécois, correspond aussi à, je dirais, votre fantastique ou même de la science-fiction, voilà, qui pourrait donner envie, effectivement, de lire ces autres voix donc, du Québec, de l'imaginaire québécois. Jonathan?
Ah, oui. Je vais parler très rapidement là, d'une novella que j'ai écrite pour La Maison des Viscères, qui est un éditeur spécialisé dans l'horreur. Mais vraiment, là, c'est pour 18 ans et plus, et bon. Petit éditeur québécois en passant. Ça se nomme Rydia avec un L. Donc, parce que Rydia ne contient le nom Rydia ne contient pas de L, mais c'est l'histoire d'un sculpteur, d'un artiste solitaire qui tombe éperdument amoureux d'une... ceux qui se déguisent ici en personnage qui existe, est-ce que vous appelez ça des cosplays ou des costumadières ou des...
Ah oui, le cosplay, oui, bien
oui,
sûr.
Le cosplay, oui. Bon, qui tombe en amour avec une adepte du cosplay. Parce que ça résonne en lui, waouh, elle est déguisée en Rydia, qui était une personnage de jeux vidéo des années environ 90, les Final Fantasy. C'est un amour qui va être partagé, mais un amour troublant. Donc, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, je pars beaucoup avec des personnages, mais c'est ça, ces deux personnages-là m'ont parlé. Mais où est l'horreur là-dedans, Jonathan? Mais c'est ça, c'est cette espèce de troublante attirance-là va mener vers de l'horreur consentante. Il n'y aura pas de victime, il n'y aura pas de bourreau. C'est un sculpteur, je vous le rappelle. Et elle n'a peut-être pas les mêmes formes pixelisées que la Rydia de ses rêves. Mais elle, c'est peut-être ça qu'elle veut, justement. Donc, c'est une histoire qui m'a... Une de mes histoires qui me parle beaucoup encore à moi-même. Et sinon, pour, disons, parler d'un autre auteur, bon, j'ai déjà parlé de Joël Champetier. Ah, mais j'irai avec Frédéric Durand, tu sais.
Frédéric Durand,
que j'admire beaucoup, qui est allé dans une belle variété. Il a fait autant poésie, romans historiques, mais moi, les romans qui m'interpellent le plus, c'est ses romans fantastiques, dont Au rendez-vous des courtisans glacés, qui est un fantastique qui est très, au début, on commence dans la réalité et quand qu'on bascule, ça nous tord les tripes, comme on dit, parce que les personnages sont tellement attachants qu'on n'a plus le choix d'y croire. Bon, ça reste un livre, mais il nous hante longtemps après. En tout cas, moi, il m'a hanté longtemps après. Donc, j'irai avec ça pour une suggestion.
Il est sur le stand, peut-être?
Ah, non? Malheureusement, non. Ah, j'ai dommage. Pas pensé à sur le stand.
Non, mais c'est pas grave. Frédéric Durand, voilà, on aura noté. Merci, Jonathan. Eric, donc une histoire.
Ouais.
Et puis un nom, peut-être.
Ouais. Une histoire brièvement, j'ai de la misère avec le bref des fois. Quand j'ai voulu écrire mon deuxième roman, j'ai réécrit les 500 dernières années de l'histoire humaine, créer un monde où est-ce que la magie est liée à des courants magiques. L'urbanisme et l'architecture sont influencés par les courants magiques. Ça donnait quelque chose de 608 pages. Paraît qu'il y a des longueurs, ça dépend de ce qui nous intéresse ou non. Histoire de me forcer, ben je me force à écrire bref, des fois c'est un bon exercice, donc je vais vous lire une histoire complète. Édouard sut que la fin approchait quand Hans se présenta à sa porte, décontenancé, dépenaillé et décapité. Tous deux prirent le chemin de l'ancien observatoire, l'un à regret, l'autre à tâtons. Sinon, pour ce qui est des auteurs, on a mentionné Esther Rochon tantôt, dans les purs inclassables, je dirais. Je mentionnerai rapidement Yves Ménard aussi, dont j'aime la finesse de l'écriture, l'utilisation de la langue, et puis qui est souvent dans une espèce de presque une impulsion de contrariété, où est-ce qu'il a écrit le livre des chevaliers, par exemple, et puis on dévie des chevaliers à un moment donné. Il va à l'encontre des archétypes un peu. Et puis je mentionnerai rapidement Jacques Ferron, qui a écrit des contes, qui n'est pas dans une pure démarche de fantastique, mais qui a un peu de fantastique dans ses histoires. Et puis, ce n'est pas un de nos conteurs traditionnels, ce n'est pas Honoré Beaugrand, il a écrit dans les années, je crois, 60, 70. Mais Jacques Ferron, il y a des petits bijoux à trouver là-dedans.
Donc, Esther Rochon, Yves Ménard et, vous avez dit, pardon?
Jacques Ferron.
Jacques Ferron, voilà. Esther Rochon, pour ceux qui aiment, par exemple, la science-fiction, c'est assez déroutant, c'est prenant, mais c'est un univers qui est... je crois qu'il n'a pas de nom, qui est totalement inclassable. Elle vous projette, je dirais, dans plusieurs dimensions infernales qui ne correspondent pas du tout aux visions, je dirais, classiques de l'enfer. Donc, Esther, elle est bouddhiste, mais donc il y a quand même un lien, mais ça l'énerve beaucoup quand on lui dit, justement, que ce sont les enfers bouddhistes. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, plongez-vous là-dedans, lisant, parce que vraiment, c'est un univers très particulier.
Elle a sa propre catégorie aux éditions à lire. Elle est la seule auteure dans cette catégorie là.
Tout à fait. Alors Ariane, une histoire et un nom, plusieurs.
Je reviens brièvement à Esther parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Disons, c'est une influence, mais c'est complètement atypique son écriture. Et puis, si vous lisez, par exemple, Coquillage, si vous voulez y aller avec une novella un peu plus brève plutôt que son cycle, c'est une histoire qui ne s'oublie jamais avec sa façon d'aborder l'érotisme. Je mets des italiques en le disant.
Donc, Esther Rochon, c'est aussi. Ça, Coquillage.
Hein, oui,
c'est
Coquillage. Voilà. Que, je vais commencer par la fin de la question, vu que... Que le temps file un petit peu. Alors, Esther, sinon, j'aime beaucoup, du côté des auteurs féminines, il y a Martine Desjardins qui a écrit La Chambre verte, dans laquelle on a une maison qui nous raconte l'avarice de ses occupants et qui va les pousser un peu à s'entre-dévorer, au sens figuré. C'est pas du cannibalisme. Et il y aurait également Claude Bolduc, qui est un auteur, je pense surtout à Entre les bras des amants réunis, qui joue sur du fantastique horrifique. En gros, c'est un homme qui va trouver dans son sous-sol une sorte de squelette. Alors, si j'avais mes deux mains, je pourrais faire des guillemets comme il se doit. Et qui va développer, merci Eric, qui va développer une relation onirico-mystico-fantastique étrange et assez glauque avec le squelette en question à mesure que la folie s'installe un peu. Alors, j'en ai déjà presque trop dit, Entre les bras des amants réunis de Claude Bolduc. Pour ce qui est de mes histoires personnelles, alors, un peu double confidence. Premièrement, j'ai très peu de mémoire et encore moins pour mes propres histoires parce que je fais une sorte de blocage amnésique sélectif, alors, comme si je ne voulais pas m'en rappeler. Alors, je vais vous raconter la plus récente, parce que là, le blocage sélectif n'a pas encore eu lieu.
C'est encore trop frais.
Oui, c'est encore trop frais. qui est paru justement dans Solaris. Puis on voulait vous parler d'ailleurs, ça pourrait vous intéresser. Je vais petite parenthèse, tiens, je laisse Jonathan faire la parenthèse.
Très rapidement, je ne vais pas te couper le.
C'est moi qui
parole.
T'invite.
Ouais, ouais. Alors, s'il y a des auteurs dans la salle, je vous invite à consulter le site revuesolaris.com parce qu'il y a quelque chose de très intéressant pour vous. On organise depuis l'an passé le prix Joël Champetier. Donc, c'est un concours de nouvelles. Donc, ce n'est pas des romans qu'il faut envoyer de 5000 pages. C'est 15 500 mots. Les gens me demandent souvent ici, mais en signes, c'est combien? 60 000 signes, espace inclus. OK, il n'y a pas d'exception, là. Essayez pas de faire 62 000 signes. Et la date limite de participation, c'est 31 août. Donc, si jamais il est trop tard, disons pour vous, ouais, j'ai peut-être une idée, mais c'est pas grave, à chaque année, l'année prochaine, ça va être également le 31 août, l'autre année d'après. Donc, vous êtes tous invités parce que ça peut être très intéressant. Il y a une bourse de 1000 euros à gagner et publication dans la revue Solaris. Donc, petit aparté, merci Ariane parce que c'était important de le mentionner.
Beau prix à 2000 euros à remporter, d'ailleurs, avec publication dans Solaris.
Oui, et c'est un Français qui a gagné le prix.
Ce sont toujours des Européens.
Ah, c'est Olivier,
oui, Olivier Paquet. Paquet.
Voilà,
ouais.
Olivier Paquet.
C'est un prix qui s'adresse aux Européens.
Vous pouvez, qui est présent, évidemment, sur le festival, voilà, que vous allez... vous pouvez voir.
Alors, je vais remplir mon mandat. J'essaie de m'esquiver autant que possible.
Vas-y.
Ici, j'ai publié une nouvelle qui s'appelle Takwakin, qui est, j'aime beaucoup les histoires de métamorphose. On est dans un hameau. Alors, il y a peut-être 15-20 personnes qui restent là au Québec. C'est au nord de chez moi, en Mauricie. Alors, mort-ici. Non, Mauricie, M-A-U, ici. Et ça s'appelle Rivière aux Rats, ce hameau-là. Et je me suis un petit peu amusée sur... c'est l'histoire d'un homme qui est en train de vivre quelques deuils. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de spécial qui se produit physiquement et puis que ça aurait des liens avec Rivière aux Rats. Mais il va pas nécessairement devenir un gros rat, là. Ça serait un petit peu trop facile. Et puis, tout ça, et à mesure que la soirée avance, il sent des espèces de picotements le parcourir et il va passer à différentes phases par la suite. Alors, oui, je dis pas trop. c'est pas gentil.
Merci Ariane. Merci. Donc nous arrivons à la fin de ce café littéraire. Merci de nous avoir fait voyager tous les trois dans la belle province, dans l'imaginaire justement de la belle province, dans ce fantastique, dans la terreur, voilà, dans l'insolite. Donc vous pouvez les retrouver évidemment, nos amis québécois, sur le stand de la Bulle du Livre. Je crois que ça vaut vraiment le coup de découvrir donc cette littérature francophone par excellence. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci.
Merci Natacha.